France Inter. Bonjour et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Inter. Savez-vous que le mot contention vient du latin contentio, la lutte? Depuis l'Antiquité, il désigne l'entrave au corps. Des ceintures de cuir aux camisoles, des murs d'asile aux chambres d'isolement, la contention a traversé les siècles comme l'un des symboles les plus visibles de la psychiatrie. Aujourd'hui, les pratiques ont changé, qui plus est, la loi l'encadre et encourage à n'y recourir qu'en dernier recours. Mais la logique de l'entrave n'en a pas pour autant totalement disparu. En 2022, 8000 patients ont subi une contention mécanique. Cela représente 11% des hospitalisations sous contrainte. Pour les équipes, il s'agit de protéger le patient contre lui-même, protéger les autres patients et se protéger elle-même. Mais ce procédé est aussi souvent une réponse à la pénurie de soignants, au manque d'espace adapté, et cela laisse des traces chez les patients: traumatisme, honte, sentiment de violence subie, et chez les soignants, souvent un goût amer. En juin dernier, l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades psychiques, a appelé le gouvernement à abolir la contention au nom de la dignité et du respect des droits fondamentaux. Certains psychiatres et associations ajoutent qu'y mettre fin permettrait aussi de lutter contre la mauvaise image qui colle à la psychiatrie et de renforcer la confiance entre patients et soignants. Certains hôpitaux ont déjà amorcé ce changement, mais ils préviennent, ça ne s'improvise pas. Il faut des moyens, des équipes stables, des services non saturés et des espaces d'apaisement. Le contexte politique va-t-il permettre un changement radical? La santé mentale est en effet la grande cause nationale 2025 et un plan psychiatrie a été présenté en juin par François Bayrou. Il prévoit notamment de former aux alternatives à la contention et de renforcer les équipes. Reste à savoir si les moyens suivront. L'hôpital psychiatrique reste avant tout un lieu de soins. Alors peut-on protéger sans attacher, soigner sans contraindre? On en débat jusqu'à 12h45. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, pour partager vos témoignages, pour poser vos questions, rendez-vous sur l'application Radio France ou envoyez-nous vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000.
France Inter, le débat de midi, Saskia Deville.
Aujourd'hui avec nous en direct sur France Inter, Delphine Moreau, bonjour, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, enseignante-chercheuse à l'École des hautes études en santé publique. Bonjour à vous, Maëva Musso.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et pédopsychiatre aux hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne. Vous êtes également présidente de l'association des jeunes psychiatres addictologues et des jeunes pédopsychiatres. Bienvenue et bonjour à vous, Mickaël Sikorave.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, vous êtes bipolaire et vous êtes aussi l'auteur d'un livre à paraître aux éditions Albin Michel sur votre expérience de psychiatre, mais aussi celle de patient de la psychiatrie. Vous nous en parlerez. Et enfin, par téléphone, pour clôturer eh bien ce plateau d'invités, Anna Lévy-Soussan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante à Paris 8 et co-responsable de l'accompagnement pour l'association La Maison Perchée. La Maison Perchée étant une association non médicalisée d'accompagnement et d'entraide pour les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique. On se pose donc cette question, hein, peut-on se passer de la contention psychiatrique aujourd'hui dans le débat de midi? Une première question pour vous à tous les quatre, et je vais commencer avec vous Delphine Moreau. La contention est-elle encore nécessaire?
Alors, ce serait peut-être une question à poser plutôt aux professionnels de la psychiatrie. Moi, ce que je peux dire en tant que sociologue, c'est que ce qu'on observe, c'est qu'il y a des très fortes disparités dans le recours à la contrainte et de manière générale à toutes les formes de privation de liberté.
C'est-à-dire?
Et c'est le premier constat, en fait. C'est-à-dire que d'un établissement à un autre, d'un service à un autre, parfois au sein d'un même établissement, il peut y avoir des services qui ont recours parfois quotidiennement aux différentes formes de contraintes, c'est-à-dire les sangles, la contention, l'attachement au lit ou les chambres d'isolement, mais aussi toutes les restrictions de liberté, la fermeture des services, l'accès au téléphone, aux cigarettes, etc. Et on observe parfois dans le service d'à côté le non-recours total aux mesures de contention. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des services qui ont peu ou pas du tout recours à ces différents moyens de contrainte. Donc manifestement, il y a des possibles et qui ne sont pas toujours bien connus.
Et on va essayer de comprendre effectivement pourquoi. Maëva Musso.
La réponse de notre côté, ce sera non, ce n'est pas obligatoire ou nécessaire. Nous, on a construit le plaidoyer de l'association, donc de la JPJA, autour du fait que les personnes, les usagers puissent accéder à la pleine citoyenneté, qu'ils puissent avoir des pratiques orientées par leur établissement et qu'elles soient, que tous les soins et les pratiques de soins soient orientées par les droits. Donc Madame Moreau faisait référence à cette disparité entre hôpitaux. Peut-être que plus tard, nous parlerons de l'étude Plaid Care, qui recense en France justement 204 hôpitaux. Et parmi ces 204 hôpitaux, un certain nombre n'ont pas du tout recours à la contention.
Je pense une trentaine.
Voilà, enfin un petit peu moins, mais n'ont pas du tout recours à la contention et à l'isolement. Avec des moyens qui ne sont pas différents en termes humains, qui sont autour des moyennes nationales, et avec aussi des hôpitaux qui peuvent être des fois en campagne, des fois en ville, etc. etc. Donc ça, vraiment, on va pouvoir en parler tout à l'heure, parce que c'est important de se baser sur ce qui existe et qui est différent.
Bien sûr, on va y venir un peu plus tard dans ce débat. La contention est-elle encore nécessaire? Votre point de vue à vous, Mickaël Sicorave?
Ben moi, je vais répondre pareil à chaque fois. Je vais stratifier la réponse, c'est-à-dire que la contention dans un service de soins de suite, probablement qu'elle n'est pas souvent nécessaire, voire qu'elle est rarement.
C'est-à-dire un service de soins de suite,
c'est là où les patients sont stables de leur maladie psychiatrique et il y a des enjeux environnementaux. Est-ce qu'ils ont les moyens de se payer un logement? Est-ce qu'il y a suffisamment d'aide sur l'extérieur, etc. Et du coup, c'est un peu une plateforme de transition. Est-ce que les contentions sont nécessaires aux urgences psychiatriques, quand on reçoit des patients alcoolisés ou sous-produits qui peuvent être
très agités,
moi, je demande d'avoir les données. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on ait des données qui montrent que sur un ensemble hôpital psychiatrique et hôpital général, parce que si on supprime les contentions dans l'hôpital psychiatrique, mais que du coup les patients attendent à l'hôpital général et se stabilisent là-bas, si on arrive à avoir des données de façon assez probante sur l'ensemble de ce système, eh ben, je pense que la question se posera pas. Vous voyez, on a les infos.
Mais qu'est-ce que changerait ces données?
Mais ben, si on montre que, en mettant en place un certain nombre de mesures dont j'imagine on va parler après, on arrive à se passer de la contention de façon durable pour toutes les populations de patients étudiées, et ben la question est résolue et non, il n'y a pas besoin de contention. Effectivement, ça veut dire que...
Mais qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui?
Ah ben moi, je constate que moi, personnellement, aux urgences, je ne vois pas comment faire sans les contentions. Je ne vois pas comment faire. Et c'est un supplice que de contentionner les gens. Honnêtement, moi, je me suis fait menacer de mort. Et ma famille, j'ai des patients qui m'ont dit « Si vous me lâchez pas, je viens vous tuer avec votre femme dès que je suis dehors. » Et personnellement, moi, j'aurais vraiment préféré laisser les gens sortir en disant « Bon, bah, écoutez, oula, je vous laisse tranquille, vous sortez, il n'y a pas de souci. » Mais je vois pas comment on est censé faire à ce moment-là. Et... il y a plein de choses qui font qu'on arrive à de la contention. Et à mon avis, le système de soins français actuellement n'est pas capable, de façon globale, de supprimer la non-sanction. Alors, la contention, je pense qu'elle est, pour le moment, difficilement évitable.
Anna Lévy-Soussan.
Oui. Alors, à la question, est-ce que la contention est nécessaire? Je demanderais déjà pour qui? Pour les soignants, pour les patients, pour les personnes concernées, elle est loin d'être nécessaire. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires à une hospitalisation et la contention est vraiment tout l'opposé de la nécessité. Et de la part des soignants, est-ce que la contention est nécessaire? Je dirais que on vit dans un monde où c'est une alternative envisageable. C'est un dernier recours. On essaye bien sûr de l'éviter au maximum, mais ça reste une alternative qu'on envisage. Et en fait, il faudrait de base que ça ne soit pas une alternative envisageable, parce que il faudrait que même dans un ultime recours, on réfléchisse à d'autres alternatives. Et bien sûr, on sera amené à réfléchir à d'autres alternatives. Mais en fait, quand on réfléchit à la manière dont c'est fait, c'est une mesure beaucoup plus sécuritaire que thérapeutique. On met thérapeutique avec beaucoup de pratiques qui ne le sont pas, comme un isolement thérapeutique, une contention thérapeutique. Et il s'avère que la contention est bien loin d'être thérapeutique. Elle est beaucoup plus traumatisante que thérapeutique.
Comment ça se décide? Qui prend la décision?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de pas seulement se mettre au moment de la prise de décision de la contrainte, parce que peut-être qu'effectivement, au moment où quelqu'un est extrêmement mal, se fait du mal ou menace de faire du mal, peut-être qu'à un moment donné, il faut empêcher qu'un mal soit commis. Mais ce qui est intéressant, c'est de resituer la décision dans une organisation du soin, parce que il n'y a pas seulement ce qui se passe au sein des services d'hospitalisation, il y a qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à cette situation. Donc ça pose aussi la question de l'organisation du soin extra-hospitalier, de l'organisation des urgences, de l'accueil de la crise et de la disponibilité, de l'accès aux soins.
La détection de maladies avant d'en arriver en situation d'urgence.
De la détection de maladies, mais simplement de l'accueil de la souffrance aussi, de l'accueil de parce que au fond, plus les personnes arrivent tard au moment de l'hospitalisation ou en contact avec le soin, plus elles sont mal en fait, plus elles sont en souffrance. L'accès aux soins, la question du travail de disponibilité, aujourd'hui c'est avoir un rendez-vous en centre médico-psychologique qui sont les lieux de consultation. Il y a parfois plusieurs mois de délai avant d'obtenir un rendez-vous.
Et voire plus.
Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont intéressantes, qui se développent du côté de l'organisation du soin, par exemple avec des équipes mobiles ou avec la possibilité d'avoir des accès rapides. C'est pas encore possible sur tout le territoire. Donc effectivement, l'organisation du soins, ça fait partie des variables qui font que dans certains services, il va y avoir plus de décisions de recours à la contrainte que d'autres.
Maëva Musso.
Alors moi j'aimerais revenir sur ce qui a été dit par rapport à au fait de faire de la contention dans les situations d'agitation. Là, il y a quand même des recommandations Cochrane qui disent que c'est la contention ne doit pas être utilisée dans des situations d'agitation. C'est pas du tout recommandé. Anna a rappelé que la contention ce n'est jamais du soin. Moi je rajouterais que la contention c'est quelque chose de donc c'est une privation de liberté. D'être attaché pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et des fois plusieurs semaines hein, pour certains usagers. C'est traumatogène et pour les personnes concernées, c'est-à-dire que ça vient briser le lien de confiance et tout ce qui va pouvoir se tisser par la suite en termes de soins. La contention, c'est quelque chose qui a d'énormes effets indésirables graves, et notamment la mort, c'est-à-dire que quand on est attaché plusieurs jours, il se peut que lorsqu'on est, par exemple, décontentionné, on ait des troubles de la coagulation, on fasse une embolie pulmonaire et puis on meurt en contention. Ça arrive régulièrement. Et après, c'est aussi important de parler aussi de l'impact en fait psychologique très très négatif sur les personnes. C'est-à-dire que il y a notamment dans la littérature, il y a une revue de la littérature qui a été faite par Strout et qui montre que justement ça amène de la colère, de l'humiliation, de la peur, de l'impuissance, etc. Du côté des usagers et du côté des soignants, il y a évidemment un impact aussi très négatif. Aucun soignant n'a envie de faire de la contention. Et donc ça c'est aussi ça a un impact au-delà du soin. C'est la baisse de l'attractivité. Alors à l'hôpital, dans les services d'intra. Donc intra, ça veut dire intra-hospitalier. Et d'ailleurs, l'OMS, quand elle qualifie la contention de torture, c'est quand même un mot qui n'est pas anodin.
Donc, et j'ai justement des messages de nos auditrices, de nos auditeurs ici qui réagissent justement par rapport à ça. Rama qui nous écrit « La contention est brutale, illégale, le plus souvent pratiquée ». Alors, elle ne l'est pas illégale, si je ne m'abuse. « Le plus souvent pratiquée par des infirmiers dépassés, les patients mettent du temps à se remettre de cette maltraitance. » Ou Guylaine qui nous raconte qu'elle a été hospitalisée il y a 9 ans pour bipolarité et contentionnée donc. « Cette contention chimique et physique m'a traumatisée, je n'étais ni un danger pour moi, ni pour les autres. Je me suis retrouvée victime du système apparemment facile à berner. Aujourd'hui, comment dire aux gens ce que j'ai vécu sans que leur regard change pour moi ?» Et ça, c'est vrai que c'est un vrai débat, l'impact de la contention sur les patients, sur les soignants. Comment effectivement arriver à faire évoluer les choses, comment aussi travailler sur la relation entre soignants et patients qui est abîmée, et peut-être aussi l'image de la psychiatrie qui l'accompagne. On va continuer à en parler sur France Inter dans ce débat. On va écouter ce titre ici de Bertrand Belin tout de suite sur France Inter, L'inconnu en personne.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam. Mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent, je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emporté dans la mort, l'amour, le carbone, je n'ai pas connu en personne. Les inconnus.
L'inconnu en personne, Bertrand Belin, il est midi et 20 minutes sur France Inter.
France Inter. Le débat de midi.
Et notre sujet du jour est le suivant. Peut-on se passer de la contention psychiatrique? On en débat avec Delphine Moreau, sociologue, enseignante-chercheuse à l'École des hautes études en santé publique. Maïva Musso, psychiatre et pédopsychiatre aux hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne, présidente de l'association des jeunes psychiatres addictologues et des jeunes pédopsychiatres. Avec le psychiatre Michael Sikoraf, également bipolaire. Et puis par téléphone, Anna Lévy-Soussan, enseignante à Paris 8 et co-responsable de l'accompagnement pour l'association La Maison Perchée. On était en train d'évoquer cette relation entre soignants et patients qui peut être fortement abîmée, mais également l'image qu'on peut avoir de la psychiatrie. Quel rôle joue la contention dans ces images qui sont véhiculées ou dans cette relation, Michael Sikoraf?
Ça fait partie des choses qui font que les patients ne veulent pas aller à l'hôpital psychiatrique et ne veulent pas voir de psychiatre. Et moi, personnellement, je me serais suicidé avant d'aller à l'hôpital psychiatrique. C'était hors de question. Mais il n'y a pas que la contention. C'est-à-dire que la contention, je ne vais pas trop partir hors sujet, mais la contention, c'est une minorité de patients, ce n'est pas la majorité. On est d'accord, on a les chiffres.
Hein. On va quand même le préciser,
Il y en a beaucoup, mais la plupart des gens ne sont pas concernés. Par contre, les gens qui ont une privation de liberté de façon parfois complètement illégale, si vous voulez, moi je suis arrivé dans un service où il y avait des gens qu'on a pu sortir parce qu'ils voulaient sortir et on s'est fait emmerder par des soignants, par des assistantes sociales, par des gens qui se seraient battus à mort pour que les gens restent et la majorité écrasante
sont sortis. Pour quelle raison ?
Mais parce que c'est comme ça, parce qu'il y a un héritage institutionnel. Il y a plein de choses qui font que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un patient qui végète un peu dans le service. Il y a des hôpitaux, vous arrivez et vous avez des patients qui s'endorment sur les bancs dehors. Enfin, c'est catastrophique. Et donc, il n'y a pas que la contention. Il y a quelle quantité de médicaments, quelle dose de médicaments, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital psychiatrique. La vérité, c'est qu'on s'emmerde royalement. Il suffit qu'il y ait un peu d'agitation pour que des gens voient le service fermé alors qu'ils sont là en soins libres. Et donc, il y a des restrictions de liberté de tous les côtés qui ne sont pas justifiées. Et la contention est, à mon avis, que la face immergée de l'iceberg. C'est le truc qui fait le plus peur. Mais ça déconne de tous les côtés. Et malheureusement, ça fait partie des choses qui font peur aux gens. Mais vraiment, il n'y a pas que ça, quoi.
Anna Lévy-Soussan, vous accompagnez, vous essayez justement vous aussi de réconcilier des gens avec l'hôpital via votre association La Maison Perchée.
Oui, en effet, c'est un réel défi parce que voilà, on a envie de créer de recréer cette relation de confiance avec le corps soignant. Et je me souviens la dernière fois, une jeune femme est venue avec une grande détresse qu'on ne pouvait pas accompagner de manière non médicalisée. Et j'ai trouvé important de l'accompagner à Sainte-Anne, ce qui l'a terrifiée. Et j'étais vraiment dans cette ambivalence et je me disais, c'est terrible parce que je sais qu'elle a besoin de soins et à la fois, j'avais à la fois la crainte qu'elle reparte encore plus traumatisée qu'elle n'arrive. Et enfin voilà, moi aussi, pour avoir été hospitalisée plusieurs fois, c'est vrai qu'on vient avec une grande détresse, une grande vulnérabilité psychologique, et s'ajoute à ça, en effet, un climat qui peut être, enfin voilà, un climat de violence. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi des soignants très bienveillants, mais voilà, rien que, par exemple, le fait de vivre en pyjama pendant 4 mois, c'est aussi un peu abandonner une part de sa dignité. Et il y a beaucoup de violences comme ça qui nous font perdre beaucoup d'humanité et qui créent un climat de défiance avec le corps soignant, où en fait, au lieu de créer un partenariat où on se dit « Ah, c'est enfin des personnes qui vont nous apporter de l'aide, qui vont écouter mes souffrances », on se dit « Ah, mais non, en fait, j'ai envie de partir le plus vite possible, donc je vais cacher mes symptômes, je vais cacher… » Et en fait, on est un petit peu comme dans un jeu de chat et à la souris, et voilà, alors que ça devrait vraiment être l'inverse. Donc oui, à la Maison Perchée, on essaye de justement, là, on va… L'année prochaine, on va développer un cycle qui s'appelle Ramène tes psy pour organiser des moments de discussion entre voilà, des pères aidants, des personnes concernées par un trouble psychique et des psychiatres. Et on va voilà, discuter à tête posée, sans les blouses, sans les pyjamas bleus. Et on va essayer de co-construire un avenir de la psychiatrie, parce que voilà, c'est quand même grâce à la co-construction et grâce au vécu élaboré des personnes qui ont vécu ça qu'on peut dire qu'est-ce qui nous a fait du bien et qu'est-ce qui nous a fait du mal.
Est-ce un sujet tabou dans la communauté médicale? Je me tourne un petit peu vers vous, Maëva Musso.
Oui.
Et Michael Sikorave. Et peut-être aussi comment éviter les excès, peut-être parfois aussi, hein, les dérives punitives quand les tensions deviennent trop fortes entre équipes soignantes, débordées, peut-être dépassées aussi par certains patients. Maëva Musso.
Alors, bah, ce n'est pas un tabou puisque nous en parlons aujourd'hui et que c'est une chaîne du service public. C'est un gros sujet de débat au sein de la communauté médicale et paramédicale, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'affects qui peuvent être partagés autour de cette question. Et tout à l'heure, Michael Sikorave parlait de la question des urgences et du fait que ça paraisse difficilement évitable. Mais nous, on pense que ce n'est pas parce que ça paraît difficilement évitable que pour autant on peut pas se dire qu'on va montrer l'exemple en psychiatrie et qu'on va pas être ambitieux. D'ailleurs, nous, on organise le 9 et 10 octobre au ministère des Journées nationales de notre association et on va faire une table ronde sur... l'abolition justement de l'isolement et de la contention avec 7 invités. Donc voilà, et par rapport à ce que disait Anna sur justement toute cette défiance en fait entre soignants et personnes concernées au sein de l'institution et usagers, il y a le livre de Philippe Amott qui est hyper intéressant, le titre c'est « Et c'est moi qu'on enferme », où justement elle parle de toutes ces ruses que les usagers vont utiliser ou vont créer pour avoir quelques petits espaces de liberté au sein de l'institution. Et là en fait il va falloir aussi que nous en tant que médecins, en tant que soignants, on se pose la question du cadre d'hospitalisation, de toutes ces choses qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas du soin, c'est-à-dire le retrait des effets personnels, la mise en pyjama dont on parlait tout à l'heure, les services portes fermées, etc. Et là, je me permets de reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'étude Plaid Care qui a recensé des services où il n'y avait pas d'isolement, pas de contention, notamment il y a un service à Marseille dans le centre hospitalier Valvert, il y a zéro contention. Ça a été décidé, ça a été inscrit dans le projet d'établissement qu'il n'y aurait pas de contention dans ce service. Et là, c'est une décision qui se fait à la fois au niveau de la direction, au niveau des médecins, au niveau des soignants. On l'inscrit dans le projet d'établissement, donc c'est quelque chose de collectif. Et là où c'est très important, c'est qu'on ne doit pas faire reposer la transformation de cette pratique et l'abolition de cette pratique sur des velléités individuelles. Il ne faut pas surresponsabiliser les soignants. Il faut qu'il y ait une démarche collective avec une cohésion administrative et soignant, mais
et
également
de la direction aussi des
voilà exactement que les directions d'établissement soutiennent cela, mettent en place des formations, envoient leurs professionnels dans des services où il n'y a pas de contention, pas d'isolement qui existe en France, que les personnes se rendent compte que c'est possible et que comme ça on puisse transformer les cultures de service.
Je vous propose ici d'écouter notre auditrice Barbara qui nous a laissé un vocal.
Ma fille a 17 ans, a été sous contention dans un hôpital psychiatrique public sans notre accord de parents. Une petite adolescente de 50 kilos toute mouillée qui se retrouve entre quatre gros malabars. Et depuis, elle a développé des crises d'angoisse et des troubles, des comorbidités qui sont directement liées à cette contention.
Voilà donc le message de Barbara, peut-être une réaction, et je me tourne vers vous, Michael Sikorav.
Alors moi j'ai plein... Il est à mon avis impensable.
Parce que là on parle de pédopsychiatrie. Oui, de
Bah, alors moi en fait je me retrouve à faire de la pédopsychiatrie parce qu'il n'y a plus de pédopsychiatre en libéral, et du coup de fait je retrouve avec des enfants qui ont 6, 10 ans. Il est impossible de faire quoi que ce soit qui tient de la restriction de liberté sans prévenir et avoir l'accord de la famille. C'est à mon avis impossible. Si on va contrôler les hôpitaux et qu'on constate ce genre de pratique.
Apparemment, elle l'a signé le lendemain.
Eh ben, ça doit être fait avant. À mon avis, ça doit être fait. Alors, effectivement, sauf si elle est en train, je sais pas moi, de se taper la tête contre les murs, ce que vous voulez, mais de façon très claire, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des décisions qui sont faites sans que la famille soit au courant. Il y a des familles qui apprennent des choses incroyables, parfois 10 ans après le début du suivi. C'est une catastrophe. Je pense pas qu'il y ait de tabou sur la contention, en soi, entre les médecins. Il y a un tabou sur la qualité des soins. Il y a vraiment un tabou sur ça, c'est-à-dire que quand vous allez à l'hôpital universitaire, tout le monde rigole parce que l'offre de soins en psychiatrie est honteuse. Les gens reçoivent des médocs n'importe comment, il y a des diagnostics qui sont grotesques, il y a des thérapies qui sont loufoques.
Pourquoi ?
Alors, il n'y a pas de formation continue obligatoire en France. Il n'y a pas de formation médicale continue obligatoire. Donc vous pouvez avoir des psychiatres qui n'ont pas ouvert un bouquin, qui n'ont pas lu une étude.
Ils sont pas à jour.
30 ans. Et ben, il y en a qui sont pas du tout à jour. Alors c'est dans la loi, c'est écrit, mais c'est pas du tout appliqué. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte quand on compare avec l'Islande ou les pays nordiques où il y a une formation médicale continue qui est relativement sévère. Il y a parfois 50 heures par an de formation à faire et c'est tous les ans. Et si vous la faites pas, vous êtes viré. Donc faut faire attention quand on regarde quelle pratique il y a, comment on peut comparer. Et moi, si vous voulez, quand il y a un an, je dis à un journal, la psychiatrie est à la bourre en France, c'est une catastrophe. Il y a la Sécu qui me signale à l'ordre des médecins comme étant décompensée, parce que je ne pouvais qu'être décompensé pour dire ça. Donc il n'y a pas de tabou, je pense, sur la contention. Par contre, il y a un tabou sur le fait que les soins en psychiatrie, globalement, c'est une discipline qui n'est pas forcément terrible, on est d'accord. On n'a pas augmenté l'espérance de vie, on n'a pas amélioré la qualité de vie des gens, comme la cardiologie et d'autres disciplines. Mais en France, c'est encore plus bas, et ça peut se prouver. Pour le coup, on peut vraiment avoir des données sur ça facilement. Donc je pense que le tabou est là.
Maïva Musso.
Oui, je peux juste rebondir sur le fait que Michael Sikorav dit que c'est pas possible de faire de la restriction sans prévenir. En fait, c'est si, ça se passe, ça existe, il faut qu'on en prenne acte, et il faut qu'on transforme les choses. Enfin, voilà.
Nous, de quelle façon ?
Alors, bah, il y a plusieurs façons de transformer les choses, et dans l'étude Pletker qu'on cite depuis tout à l'heure, la première chose, c'est de transformer la formation. Donc nous, on pousse vraiment pour que y ait des patients enseignants, donc des usagers dans les enseignements. Ça permet de déstigmatiser et de montrer aussi différents parcours de rétablissement, parce qu'il faut pas oublier que les soignants sont les premiers pourvoyeurs de stigmatisation. Après, il faut transformer aussi la formation médicale et paramédicale. Donc, tout à l'heure, on parlait de la formation continue et initiale. Il faut vraiment former les équipes à tous les leviers cliniques qui sont montrés dans l'étude Pletker, pour justement ne pas avoir recours à ces pratiques. Et dans les leviers cliniques, il y a 3 leviers cliniques. Le premier, c'est la relation de soins, c'est-à-dire comment on se rend disponible et comment on s'investit fortement auprès en tant que soignant auprès des patients.
Pourquoi ils ne s'investissent pas assez ?
Alors, bah, si, mais en fait, il y a des façons de faire et il y a des cultures de service à transformer. Donc ça, c'était le premier levier clinique. Il y en a 3. Le deuxième, c'est comment on recrée un collectif de soins et comment on a justement des équipes soudées qui se font confiance et qui se sentent en sécurité les uns avec les autres. Et le troisième levier clinique qui est rapporté dans l'étude Plaid Care, c'est le milieu de vie, c'est-à-dire comment les portes ouvertes, le fait qu'il y ait des activités qui soient fréquentes et aussi diversifiées pour les usagers au sein des institutions. Mais les leviers cliniques ne suffisent pas, et Madame Moreau tout à l'heure parlait des leviers notamment organisationnels.
Et on va en parler dans un instant. Il est midi 33 sur France Inter, on écoute Wildflower de Billie Eilish.
Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who was best.
Wildflower de Billie Eilish à midi 37 sur France Inter.
Le débat de midi, Saskia Deville sur France Inter.
Faut-il abolir la contention en psychiatrie ? C'est le thème de notre débat aujourd'hui et vous êtes nombreux, nombreuses à réagir sur l'application France Inter. Angélique qui nous écrit ceci. Bonjour, j'ai été infirmière en psychiatrie. Nous utilisions la contention en dernier recours. Dans la plupart des situations, les patients l'acceptent pour leur propre sécurité. Mais la pire des contentions que j'ai vues était celle de mon père, âgé de 80 ans. À la suite d'un pontage en cardiologie, il était agité au réveil, il était sanglé au cou, à l'abdomen, au poignet, aux chevilles. Je n'avais jamais vu ça, même dans mon service. Au bout de 4 heures, il était recouvert d'escarres. Une réaction de l'un ou l'autre autour de la table. Je vais peut-être me tourner vers vous. Vers vous, Delphine Moreau.
Ce qui est sûr, c'est que le paradoxe, c'est qu'on a une loi qui encadre les mesures de contrainte en psychiatrie, et Maëva Musso le disait, c'est un paradoxe, parce qu'en même temps qu'on l'encadre, on le rend légal, donc légitime, donc finalement on questionne insuffisamment ces pratiques, mais il y a toute une série d'espaces institutionnels où des pratiques restrictives de liberté existent, dans le médico-social, dans les établissements pour personnes âgées, dans les services.
C'est ça que j'allais dire, on a aussi beaucoup de messages qui questionnent la contention en gériatrie ou dans les EHPAD.
Bien sûr, ce sont des pratiques qui sont peu encadrées. Le premier contrôleur des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, avait demandé à un moment donné qu'on intègre à son contrôle les établissements pour personnes âgées dépendantes, ce qui lui avait été refusé parce que ça aurait nécessité des demandes, des moyens supplémentaires très importants. Mais on voit bien, avec les scandales récents autour des maisons de retraite ou des établissements médico-sociaux, qu'il y a évidemment un contrôle à faire aussi sur ces établissements et une réflexion à faire institutionnelle, collective, sur ce qu'on demande à ces établissements et à la façon dont on fait avec des comportements qui, à un moment donné, sont jugés pas supportables par les proches ou par les équipes. Et il y a des manières de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire avec, comment est-ce qu'on peut faire différemment. Comment est-ce qu'on focalise pas seulement l'attention sur la psychiatrie, mais sur tous les endroits où il y a des pratiques restrictives de liberté.
Michael Iskorav.
Du coup, ça, c'est un patient confus jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas pour son père, mais les patients âgés, agités, post-opératoires, c'est une confusion. Et il y a une vraie question. Est-ce que je le laisse dans sa chambre, mais vu qu'il est confus, il peut facilement tomber et se fracturer la hanche et on n'en sort pas? Ou est-ce que je l'attache? Mais là, il peut se passer d'autres problèmes. Et il y a des médecins qui sont d'accord pour l'attacher, d'autres qui sont pas d'accord. Et en fait, la solution qu'on a en médecine, c'est de faire une étude randomisée. Il y a une équipe poise, il y a des gens qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est pas bien. Donc, on sait pas trop. Et donc, pour répondre à la question, on fait une étude. Donc, pour la psychiatrie, ce serait, à mon avis, très simple à faire, honnêtement. On prend un hôpital. Chaque patient qui vient aux urgences et qui est hospitalisé en psychiatrie, une fois sur deux, il y en a un qui peut pas du tout être contentionné. L'autre, il peut pas du tout être mis en isolement. Et puis, après avoir vu 200 patients, on voit comment ça se passe. Et ça résoudrait la question, honnêtement. Je veux dire, on fait deux études comme ça et c'est fini.
Maëva Musso.
Ce que dit cette dame, c'est que elle a pas du tout eu le même vécu de la contention en tant que professionnelle et en tant que famille. Et on peut avoir l'exigence pour les personnes dont on s'occupe de ce qu'on voudrait pour nous-mêmes et pour nos proches. Et d'ailleurs, l'UNAFAM, donc qui est l'association représentante des familles en psychiatrie, a demandé, comme vous le disiez tout à l'heure, l'abolition de la contention au mois de juin. Donc nous sommes alignés sur cette demande et nous demandons ça depuis des années. Il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que on a pu tolérer en tant que professionnel comme pratique pendant des années. Et tout à l'heure, Monsieur Sikorav disait que il y a des psychiatres qui se mettent pas à jour, qu'il y a un manque dans la formation continue. J'aimerais quand même rappeler que dans un des hôpitaux de l'étude Plaid Care, donc c'est le centre hospitalier de Buëch-Durance et le centre hospitalier Valvert à Marseille, il y a pas de contention depuis les années 60, donc c'est pas une question de mise à jour, ce sont des pratiques qui ne sont pas présentes depuis les années 60 et ils ont conservé ces pratiques.
Et comment ils sont-ils parvenus justement?
Alors, tout à l'heure, on avait parlé justement de la question de transformer la formation. On peut aussi parler des outils, comme l'outil Quality Right pour les soignants, qui est une visite d'équipe pluridisciplinaire pour faire un pas de côté sur nos pratiques au sein des services. On peut parler des directives anticipées en psychiatrie. Et du coup, il y a Aurélie Tinlande qui a fait une étude là-dessus et comment ça réduit le recours aux mesures coercitives. Et après, il y a quelque chose...
Donc voilà, c'est le fait d'écrire en amont ce que nous souhaiterions.
Oui, c'est ça. Les directives anticipées en psychiatrie, c'est rédigé avec un médiateur santé-pair, qui est une personne qui a été psychiatrisée elle aussi et qui ensuite fait une formation pour participer aux équipes de soins, et on dit ce que l'on souhaite, ce que l'on souhaite pas, etc. Et après, il y a vraiment quelque chose de central dans le fait de ne pas avoir recours à l'isolement et à la contention, c'est de changer les organisations de soins. Et notamment développer, réorienter le personnel sur l'ambulatoire et toute la prévention d'amont avec les équipes mobiles, les visites à domicile, les CMP.
Voilà, donc, quand c'est possible.
Voilà, les consultations qui ouvrent plus tardivement et intervenir le plus rapidement possible.
Anna Lévy-Soussan, vous soulevez aussi la nécessité de créer de nouveaux espaces.
Oui, créer des nouveaux espaces. Bah, je rejoins Maëva Musso sur la question de la formation des soignants qui doit beaucoup plus se faire par des personnes concernées qui ont vraiment un savoir expérientiel et beaucoup à transmettre. Parce que par exemple, je prends l'exemple du délire. Le délire, pour avoir plusieurs fois formé des psychologues et des personnels soignants, on ne sait pas du tout ce que c'est, on ne sait pas du tout comment ça se passe de l'intérieur, et on est tellement désarçonné face à ça que c'est pour ça qu'en fait, assez rapidement, on se dit « Oula, c'est de l'agitation ». Moi, je me rappelle, pour avoir eu plusieurs épisodes délirants, « Oh là là, c'est de l'agitation, on va devoir vous réisoler, madame, on va devoir vous réisoler pendant une semaine ». Et en fait, les seules réponses, c'est voilà l'isolement, et en fait, il y a une escalade de la violence qui se fait de plus en plus parce qu'on ne trouve pas la réponse et du coup on arrive à des pratiques de plus en plus violentes alors qu'en fait le délire, la source du délire, c'est de l'angoisse, c'est une angoisse débordante, c'est une détresse immense. Et en fait, si on entend cette angoisse, si on arrive à voir qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est des choses qui sont pas si irrationnelles que ça. Je peux vous donner un exemple. Moi, je me rappelle à un moment, pendant un mois, je n'avais pas le droit d'appeler mes proches. Et un délire que j'ai eu, c'était « Ah ben en fait, il y a un de mes proches qui est mort ». Donc c'était un délire, mais en fait, on n'a jamais voulu, on s'est tout de suite dit « Ah, elle est délirante, elle dit n'importe quoi ». Et donc moi, ça me stressait, j'avais l'impression qu'il dénigrait totalement ce vécu, ce ressenti, et donc il m'enfermait. Je me suis fait isoler pendant pendant une semaine, deux semaines, et en fait, on n'arrivait pas à voir que ben, en fait, c'est totalement légitime face à quelqu'un qui ne peut pas parler à ses proches d'avoir une angoisse qui est très primaire, mais qui avait juste besoin d'être entendu, d'être calmé, et juste en fait d'avoir un geste de tendresse, un geste de compréhension, de bienveillance. Et en fait, c'est vraiment ça que la formation, il y a des formations à la désescalade. On voit à quel point on peut faire escalader l'angoisse et comment on peut la faire aussi désescalader en comprenant quelle est l'angoisse à la source de cette détresse et comment pouvoir y répondre pour calmer ça.
Et vous l'entendez, ce débat est très partagé. J'ai encore un message ici de notre auditrice Cécile qui nous écrit. Elle est infirmière en psychiatrie depuis 2007, passionnée par son métier. Je suis surprise, voire abasourdie par le discours de certains de vos invités. La contention est parfois indispensable pour faire céder la crise suicidaire, notamment. Je vois que vous n'êtes pas tous d'accord autour de la table. Le débat de midi, eh bien, c'est déjà terminé. On espère que peut-être le plan psychiatrie du gouvernement apportera une évolution ou d'autres choses dans ce débat sensible. On l'a encore entendu aujourd'hui sur France Inter. Merci à tous les quatre, Delphine Moreau, Maëva Musso, Michael Sikoraf et Anna Lévy-Soussan. Merci aussi à toute l'équipe du débat de midi, Aurore Mancip, Louise Morfois à la programmation, à nos stagiaires Anaë Balista et Ryan Saibi, notre documentaliste Corinne Chauvel. Merci beaucoup aussi à Juliette Lorfoy pour la programmation musicale. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Rémi Sistiaga.